بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله أيها الأحبة. Heureux de vous retrouver aujourd'hui, le samedi, le premier du mois de Al-Qa'da de l'année 1446 de l'Hégire, correspondant au 18 avril 2026. Nous nous retrouvons par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala dans notre étude du livre de l'imam Ahmad intitulé Usul al-Sunnah, ou Sharh Usul al-Sunnah, dans lequel il a énuméré un certain nombre de fondements de la croyance dans lesquels il n'y a aucune divergence entre les suiveurs de la sunna, les suiveurs du prophète alayhi salatu wassalam. Donc ce sont tous des points dans lesquels il y a unanimité. Il n'y a pas de divergence qu'entre les adeptes de la sunna et les innovateurs. Et après avoir parlé de la tombe et de ses délices et supplices, et la croyance que nous devons avoir vis-à-vis de points, aujourd'hui, nous allons parler d'un autre point dans lequel il y a eu beaucoup d'égarements, qui concerne l'intercession. L'intercession, comme vous savez, chez Al-Sunnah wal-Jama'a, est un point de la croyance. Et dans l'intercession, nous avons deux catégories. C'est ce que vous étudiez dans les quatre règles ou dans d'autres ouvrages qui facilitent ce point. Nous avons une intercession affirmée, qui est l'intercession des monothéistes en faveur de d'autres monothéistes après l'accord et la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'intercession, comme son nom l'indique, shafa'a, c'est qu'une personne va formuler une demande afin d'être la cause d'un bénéfique, d'un bien, ou pour repousser de la personne un mal. Fijal bi khayrin ou daf'i dar. Shafa'a, c'est ça. Et pourquoi on l'appelle shafa'a? Ça vient du terme shafa', père. Car une personne, comme si une personne, elle va se joindre à une autre pour être la cause d'un bien pour elle. Et cette intercession dans l'au-delà, elle n'est autorisée qu'après la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Même aux prophètes, même aux anges, personne ne peut intercéder qu'après la permission d'Allah. Et jamais un associateur ne peut intercéder. Ceux qui intercèdent, c'est forcément ceux qu'Allah agrée. Et Allah n'agrée que le monothéisme pur. Et jamais un monothéiste n'intercédera en faveur d'un mushrik pour le faire sortir du feu de l'enfer. Ça n'existe pas. Et même l'intercession en faveur d'un mushrik n'existe pas, à part une seule exception que nous allons voir aujourd'hui. Un cas unique et isolé, qui n'a pas de semblable. Donc, al-shafa'a, d'une manière résumée, c'est ça. Et al-shafa'a, on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala, car elle appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. On demande al-shafa'a à Allah. « وَلِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا » « قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا » « قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا » Donc, on la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc on sait que le prophète sallam intercédera auprès d'Allah. Allah nous l'a dit. Il intercédera en faveur de l'muwahhidin. Pour que je puisse bénéficier de cette intercession, je ne la demande pas au prophète sallam. Je la demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Je lui dis, « Oh Allah, permets-moi de bénéficier de l'intercession de ton prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. » L'imam Ahmad a dit, من أصول أهل السنة والجماعة font partie des fondements des adeptes de la sunna et du consensus, al-imanu bi shafa'ati an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, avoir la foi en l'intercession du prophète alayhi salatu wa salam, bi qawmin yukhrajuna min an-nar ba'da ma ihtaraqu wa saru fahma. Et cette intercession, elle consiste à ce que des gens qui seront sortis du feu de l'enfer après avoir brûlé et devenu comme du charbon, فَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ فِي الْأَثَرِ. Allah ordonnera à ce qu'ils soient placés devant une rivière, devant la porte du paradis, avant l'entrée au paradis. Comme ceci a été rapporté dans les hadiths authentiques. كَيْفَ شَاءَ اللَّهِ وَكَمَا شَاءَ اللَّهِ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ. Donc, comment cette chose-là va se dérouler? Yani, dans le hadith, le Nabi Asselam nous a dit qu'ils seront ramenés dans cet état après avoir brûlé des gens parmi les monothéistes qui auront subi un châtiment dans le feu de l'enfer pour la durée qu'Allah aura déterminée pour eux. Et suite à ce châtiment, Allah, yani, comme vous savez, tout mouahid ira forcément au paradis. Tout mouahid ira forcément au paradis. Là, il y a des mouahidines qui vont rester en enfer le temps de dunya en entier. Deux fois dunya, trois fois dunya. Là, un mouahid ne s'éternise jamais en enfer. Car l'enfer, c'est la demeure éternelle de l'mushrikin et de l'kuffar. Et le paradis, c'est la demeure éternelle des mouahidines et des croyants. Donc, après avoir brûlé dans le feu de l'enfer, ils deviendront comme du charbon. Ils seront mis dans cette rivière Nahr al-Hayat. Dans l'Hadith, il est rapporté qu'elle s'appelle la rivière de la vie. Et ils vont retrouver leur état. Et ensuite, Allah subhanahu wa ta'ala autorisera à ce qu'ils entrent au paradis. Cheikh Rabi' dans son commentaire a dit « فَالشَّفَاعَةُ ثَابِتَةٌ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. » Donc, shafa'a, l'intercession, est quelque chose qui est affirmé pour le prophète alayhi salatu wassalam. Yani, et là, il va parler de la grande shafa'a, ce qu'on appelle shafa'atul uzma, car shafa'a est de plusieurs catégories. Il y a plusieurs catégories de shafa'a. On peut classer d'abord une shafa'a affirmée, c'est de laquelle parle Ahl-Sunnah wal-Jama'a, ce qu'on appelle shafa'a al-Muthbata. Et une shafa'a nié, qui n'existera pas, auquel croient les polythéistes et les associateurs, Shafa' al-Manfiya, celle-là, on ne va pas en parler. Yani, c'est ceux qui croient que les idoles et yani, Shafa'a auquel croient les mouchriquins d'une manière générale. Que ce soit des païens, des idolâtres, des mouchriquins parmi Sophia, qui croient que leurs chouyours vont intercéder pour eux. Yani, il y a des sophias, des sectes égarées de sophia, et tous les sophistes sont égarés. Mais leur égarement n'est pas le même. Il y en a que l'égarement ne sort pas de l'islam. Et ça, c'est la règle de base dans un sophie. C'est qu'il est musulman, mais qu'il est dans l'innovation. Lakin, il y a des sophies qui ont des croyances qui les font sortir de l'islam. Il y a des sophies qui croient que leurs chouyours vont venir dans le feu de l'enfer et les sortir malgré la volonté d'Allah. Et des choses encore beaucoup plus graves. Donc, cette shafa'a manfiya, c'est celle qui ne remplit pas les conditions, tout simplement, de shafa'a affirmée. C'est-à-dire, il y a une shafa'a d'un kafir, ou d'un mushrik, ou la shafa'a dans laquelle il n'y a pas la permission d'Allah, ou la shafa'a en faveur d'un mushrik. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam n'intercédera pas en faveur d'un mushrik. Comme je vous ai dit, à part une seule exception. Taïb. Donc nous avons ces deux grandes catégories. Après, dans shafa'a affirmée, nous avons une shafa'a des catégories qui sont spécifiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et nous avons d'autres qui sont communes à tous les croyants, les anges et les mu'minines d'une manière générale. Donc ce qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous avons cette shafa'a dans laquelle Cheikh Rabi' a commencé à parler. Shafa'a al-Uzma. Quand les gens seront في عرسات يوم القيامة. العرسات جمع عرسة، جمع عرسة يعني dans la cette place, cette grande place, le jour de du jugement dernier après la résurrection, ils seront dans cette grande place, et quand les frayeurs et les gens seront accablés par la peur et la dureté de cette épreuve, ils s'adresseront vers Adam alayhi salam en premier. Ils vont lui demander d'intercéder en leur faveur. Toutes les créatures vont demander à Adam alayhi salam d'intercéder auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala afin qu'il commence le jugement. Afin qu'il commence le jugement. Tellement ils vont être yani, dans les terreurs et la peur et l'effroi de ce qui les attend, et aussi les épreuves. Les gens, il y en a qui vont transpirer jusqu'à ce que leur sueur arrive au niveau des oreilles, au niveau de la tête. Certains seront complètement plongés dans leur sueur. Il y a des choses difficiles. Le soleil se rapproche des gens, il y a d'une toute petite distance qui est égale à le bâton qu'on utilise pour mettre du khul dans les yeux. Il y a une toute petite distance. Imaginez aujourd'hui la distance qu'il y a entre le soleil et la terre et la chaleur dans laquelle on est aujourd'hui, surtout en été, malgré cette grande distance. Alors que dire quand le soleil sera tellement proche des gens, yani, les gens ils vont être dans cette difficulté, à part ceux qui seront ombrés sous l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui seront dans l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a dans certains hadiths, cette ombre elle est attribuée à Allah. Et dans d'autres, elle est attribuée au trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, on comprend les hadiths en les regroupant. Et cette ombre, c'est l'ombre du trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand elle est attribuée à Allah, c'est Allah qui l'a créée. C'est dans ce sens-là. La mosquée d'Allah, la chamelle d'Allah, naqatullah, Ruhullah, et ainsi de suite. C'est une attribution pour indiquer que c'est Allah qui a créé et aussi pour souligner le mérite de cette créature. Taïb. Donc ils vont s'adresser à Adam alayhi salam en premier et ils vont lui demander l'intercession auprès d'Allah pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala commence le jugement. Et Adam va refuser. Il va citer sa désobéissance quand il a mangé de l'arbre qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a interdit. Et il ne pourra pas intercéder. Il les orientera vers Nuh alayhi salam. Il leur dira, c'est le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre. Nuh alayhi salam. Car avant Nuh, c'est que des prophètes. Allah a envoyé pour la première fois un messager quand il y a eu shirk. Quand il y a eu shirk pour la première fois sur terre, Allah a envoyé le premier messager. Avant, c'était que des prophètes. Et le messager est envoyé à des gens qui ne sont pas sur la même religion que lui. Alors que les prophètes sont envoyés dans des peuples qui sont sur la même religion que eux pour leur faire les rappels et leur rappeler les ordres d'Allah et les interdits d'Allah, comme le rôle des hommes de science dans notre communauté. Amma le messager, forcément, il est envoyé dans un peuple qui n'est pas sur la même religion que lui, qui est dans le shirk et dans la mécréance. C'est pour ça que le premier messager qui a été envoyé aux gens de la terre, comme ceci est rapporté dans le hadith, c'est Nuh alayhi salam. Il a ce mérite. Et en plus, il fait partie des 5 meilleurs messagers qu'Allah a envoyés. Ulul azm. Nuh alayhi salam. Et quand ils vont se diriger vers Nuh alayhi salam, ils vont lui demander l'intercession. Il refusera de la faire. Et il sortira la demande, yani, sa demande à Allah subhanahu wa ta'ala de sauver son fils. Et il les orientera à son tour vers Ibrahim alayhi salam, le père du monothéisme. Ibrahim alayhi salam, Khalilur Rahman. Et Ibrahim alayhi salam, également, il ne le fera pas. Et il sortira les deux choses dans lesquelles il a menti, alors qu'en réalité il n'a pas menti. Ça s'appelle pas un mensonge, ça s'appelle ta'rid. Lakin, malgré cela, il verra que cette chose est grave. Alors que dire des menteurs? Que dire de ceux qui informent avec des choses qui sont contraires à la réalité? Et quand ils le font volontairement, ils falsifient les vérités, ils changent les réalités des choses, ça c'est le mensonge. Alors Ibrahim alayhi salam, il a utilisé ce qu'on appelle nous, en islam, ta'rid. Ta'rid, ça veut dire il va parler d'une certaine manière à ce que son interlocuteur comprenne une chose, mais sa parole admet deux sens par exemple. Il le laisse comprendre un sens qui n'est pas celui qu'il veut lui. Par exemple, quand Namrod had le tyran, qui prenait toutes les belles femmes et tuait leur mari, quand il lui a demandé sa relation avec Sarah, alayhi salam, il lui a dit « c'est ma sœur ». Et ça, ce n'est pas un mensonge. Si tu dis de ton épouse qu'elle est ta sœur, fillah, ce n'est pas un mensonge. C'est ta sœur, en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ton épouse aussi. Lakin, ce tyran a compris que c'était son frère, donc il n'avait pas de raison de le tuer. Donc, regardez dans quelle situation il a utilisé ce ta'rid. C'est pour ça que les savants ils disent ça, c'est pas quelque chose qu'on utilise souvent, car ça va être la cause que les gens perdent confiance en toi et ne te croient pas dans ce que tu dis. Tu le fais dans des cas où c'est nécessaire de le faire. Amma, ça ne devient pas un jeu, comme c'est chez certaines personnes. On l'utilise pour des raisons valables ou non valables. Non, ta'rid, c'est uniquement dans des situations comme ça, où c'est le seul moyen d'avoir son droit, ou le seul moyen d'échapper à une punition qui n'est pas autorisée, qui n'est pas légiférée, une injustice. Et le deuxième, c'est quand il leur a dit, ils lui ont demandé qui a cassé les statues, il leur a demandé, c'est le plus grand d'entre eux, qu'il a laissé sans le détruire. Il leur a dit, c'est lui qui les a détruits, qui les a cassés. Il leur a dit de lui demander. Taïb, après Ibrahim alayhi salam, ils vont se diriger, il va les orienter vers Moussa alayhi salam, Kalimullah. Celui qui a parlé avec Allah subhanahu wa ta'ala de vive voix, sans intermédiaire. Mais il ne l'a pas vu. Personne n'a vu Allah subhanahu wa ta'ala. Personne ne peut voir Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas monde. Allah ne sera vu par les croyants, réellement, comme il convient à sa grandeur et sa majesté, que dans l'au-delà. Quand Allah va ôter nos corps de la capacité de le voir. Dans le dunya, on n'a pas cette force. C'est pour ça, Moussa alayhi salam, tellement il a aimé le fait de parler, de vive voix avec Allah subhanahu wa ta'ala, il a souhaité plus. Il a dit, oh Allah, permets-moi de te voir. Il lui a dit, tu ne pourras pas me voir, car tu n'as pas la capacité dans le dunya. Il lui a donné un exemple. Regarde la montagne, Allah a montré une infime partie de lui à cette montagne, et la montagne a été réduite en poussière. Et Moussa alayhi salam, kharra sa'iqa, s'est évanoui. Et là, il a su qu'il est incapable de voir Allah subhanahu wa ta'ala. Lakin, le fait que Moussa alayhi salam demande de voir Allah, ça veut dire que c'est possible. Car un prophète, surtout Moussa, tous les prophètes, ça c'est valable pour tous les prophètes et messagers. Alors que dire des meilleurs parmi eux? Et Moussa, il fait partie des 5 meilleurs. Alayhi salam. Ceux qui ont le plus de science d'Allah subhanahu wa ta'ala, ils ne vont pas demander une chose qui n'est pas autorisée. C'est pour ça qu'il a demandé une chose qui est possible, mais pas dans ce bas monde. Pas avec ce corps qu'on a aujourd'hui. Et ensuite, il va les diriger vers Isa alayhi salam. Moussa, il citera quand il a tué cet Égyptien qui faisait du mal en voulant défendre un Israélite, sans vouloir le faire exprès. C'était pas fait exprès de sa part. Lakin, il va citer ça comme excuse pour ne pas pouvoir intercéder auprès d'Allah. Regardez, imaginez un homme comme Moussa alayhi salam et comme les autres messagers qu'on a cités. Yani, il cite un point durant une vie. Et ce point, yani, pour nous, ce n'est pas un mal. Lakin ça, c'est du point de vue de quelqu'un qui est très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a une grande connaissance et un grand savoir d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et de l'autre côté, tu vas trouver qu'il a passé sa vie dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, à défendre sa religion, à la propager. Et malgré ça, il va refuser cette intercession en citant un seul point, comme ça. Et ensuite, ils vont se diriger vers Isa alayhi salam. Isa alayhi salam, il va s'abstenir également sans citer d'erreur ou là, de péché ou là, dans ce sens-là. Et il va les diriger vers Muhammad sallallahu alayhi salam, qui va accepter et il viendra devant le trône d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il se prosternera longtemps. Et il va louer Allah avec des louanges. Nabi Aslam dit que je ne connaissais pas avant. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui inspirer ses louanges à ce moment-là. Yani d'un degré encore plus élevé que ce qu'il connaissait dans le dunya. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui va lui inspirer ses louanges à ce moment-là. Et il restera ainsi jusqu'à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dira « Irfa ra'sak » وَقُلْ يُسْمَعْ لَكْ وَسَلْ تُعْطَى وَشْفَعْ تُشَفَعْ. Allah lui dira, lève ta tête et dis ce que tu as dit, ce que tu as à dire, tu seras entendu. Et demande, tu seras exaucé et intercède, l'intercession te sera accordée. Et Nabi alayhi salam a d'autres intercessions, Cheikh Rabi a cité son intercession pour augmenter les degrés de certains croyants dans le paradis. Certains croyants qui vont mériter un certain degré dans le paradis. Vous savez que l'entrée au paradis, c'est avec la miséricorde d'Allah. Et la miséricorde d'Allah ne bénéficiera dans l'akhira que pour le muahidin. Il n'y a pas de miséricorde d'Allah dans l'akhira pour le kuffar. Est-ce qu'il y a une miséricorde d'Allah dans le dunya pour le kuffar? Non. Avec laquelle ils mangent, ils boivent, ils dorment. Et tout ce qu'Allah leur accorde comme bien dans cette dunya. لكن في الآخرة أولئك ليس لهم في الآخرة إلا النار. Ils n'auront que le feu de l'enfer. Donc, l'intercession, le prophète عليه الصلاة والسلام va intercéder pour augmenter les degrés de certains croyants dans le paradis. Et l'intercession pour que certains croyants qui ont mérité l'enfer n'aillent pas en enfer et qu'ils aillent directement au paradis. Et aussi l'intercession que certains qui sont morts avec des grands péchés qui n'ont pas été pardonnés par Allah subhanahu wa ta'ala et desquels ils se sont pas repentis et à qui Allah n'a pas pardonné. Et donc qui vont aller en enfer. Et Nabi Aslam intercédera en leur faveur afin qu'ils sortent du feu de l'enfer pour aller au paradis comme ce qu'on a vu dans le hadith. Mais ça, ce n'est pas une intercession qui est spécifique au prophète, ainsi que l'intercession pour augmenter les degrés. Ça, c'est valable pour les croyants, pour les prophètes et les messagers, pour les anges, et ainsi de suite. Et Ibn Abi al-Izz, dans l'explication de Tahawiyya, a cité 8 types d'intercession. Et la plupart des savants citent 7 intercessions. 7 types d'intercession. La première qu'on a vue, Shafa' al-Uzma, qui ne se doit qu'à un seul homme, ce qu'on appelle Maqam al-Mahmoud. C'est ce qu'on demande au Prophète après chaque adhan. Wab'athu Maqam al-Mahmouda. Un rang louable. C'est quoi ce rang louable? C'est quand toutes les créatures vont se diriger vers les messagers et demander l'intercession. Et il n'y a que le Nabi al-Salam qui va pouvoir le faire. Ça, c'est le rang louable, Maqam al-Mahmoud. Ça, c'est la première. La deuxième, l'intercession en faveur de son oncle Abu Talib. Ça aussi, c'est spécifique au prophète. Son oncle, c'est un kafir. Il est mort alors que sa dernière parole, c'était qu'il était sur la religion de son père, de ses ancêtres. Huwa ala millati Abdul Muttalib. Yani, le polythéisme. Il a refusé de dire la ilaha illallah. pas parce qu'ils ne savaient pas que la ilaha illallah, c'est la vérité. Et que le prophète alayhi salam est un vrai messager et prophète. Ils savaient tout ça. Lakin, an-na'r al-jahiliya. Et la mauvaise compagnie. La mauvaise compagnie, yani had, les deux hommes qui étaient en sa compagnie pendant qu'il agonisait, Abu Jahl et Abdullah ibn Abi Umayya. Abdullah ibn Abi Umayya est entré en islam par la suite, mais Abu Jahl est mort mécréant, comme Abu Talib. Allah il guide qui il veut. Et c'est à ce sujet-là que ça a été révélé, ce verset. Al-Nabi a tout fait pour que son oncle prononce la parole « La ilaha illallah » et pour qu'il ait cette bonne fin et qu'il meure sur Tawhid. Mais ils lui ont rappelé, yani il ne l'a pas fait par peur de se faire insulter, qu'il a faibli à ce moment-là et qu'il a délaissé la religion de ses ancêtres et qu'il a accepté cette nouvelle religion. Ça, c'est la plus grande chose qui l'a empêché de le dire. Yani Abu Talib, quand vous lisez ses poèmes, vous dites c'est un musulman, c'est un mouahid. Il connaît la vérité. Il dit explicitement savoir que le Nabi sallam est sur la vérité. Lakin, pour savoir, ça nous donne une faïda très importante. C'est que la foi, c'est pas seulement une science. C'est des connaissances et une mise en pratique et une acceptation. Il faut accepter. Et un désaveu. Et un rejet de l'batil. Et le mouahid, c'est pas celui qui adore Allah seulement. Le mouahid, c'est celui qui adore Allah exclusivement et qui mécroit en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est ça le mouahid. Amma quelqu'un qui adore Allah seul, lui dit, moi je fais pas de shirk. Lakin, je vois pas de mal à ce que Hada soit sur telle religion, Hada soit sur telle religion. Il n'y a pas de mal. Les Syriens, ils disent celui qui est sur sa religion, qu'Allah l'aide, quelle que soit cette religion. Non, celui qui est sur la religion de vérité, qu'Allah l'aide. Il n'y a qu'une seule religion. La religion pour Allah, c'est l'islam seulement. C'est la soumission à Allah en suivant le prophète. Et ça, c'est le sens général de l'islam. C'est l'islam dans son sens général, c'est la religion de tous les prophètes et messagers, depuis Adam jusqu'à Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le dernier des prophètes. Et l'islam, dans son sens particulier, c'est la législation avec laquelle était envoyé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc l'islam a deux sens, un sens général et un sens particulier. Donc ça, c'est la deuxième intercession qui est spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour alléger le châtiment de son oncle. Son oncle, il serait dans le degré le plus bas de l'enfer. Lakin, à cause de l'intercession du prophète, il aura le châtiment le moins douloureux qui existe en enfer. Et il restera dans ce châtiment pour l'éternité. Et pour lui, pendant qu'il subisse ce châtiment, il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment plus douloureux et plus grave que le sien. Alors qu'il aura seulement deux cailloux du feu de l'enfer, deux braises de feu sous les talons, desquelles sa tête bouille, comme yani une casserole ou un récipient que tu mets sur le feu avec de l'eau, et ça, quand ça commence à bouillir, son cerveau va bouillir de cette manière-là. Et il ne s'imagine pas qu'il puisse exister un châtiment plus douloureux que le sien. Et Allah, il ne lui permet pas de voir les autres châtiments. Parce que ça va alléger son châtiment. Comme Allah, il ne permet pas aux croyants de voir les gens qui sont dans des degrés plus élevés, dans le paradis. Comme ça, il ne minimise pas les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sur lui. Il ne voit pas ceux qui sont au-dessus. Il voit ceux qui sont en dessous. Donc ça, c'est la deuxième. La troisième, qui est également spécifique au prophète, c'est son intercession pour que les gens entrent au paradis. Quand Allah va juger les gens, les mécréants, sans jugement, ils seront conduits vers le feu de l'enfer, ils tomberont dans ce fossé. du feu de l'enfer directement, sans jugement, sans obtenir leur livre, Adul Mushrikin il Kuffar. Et après le jugement, c'est que pour le Mouahidin, ceux qui ont la ilaha illallah. Ça, c'est l'avis de beaucoup de savants. Il y a des savants qui voient que le jugement, c'est pour tout le monde. Kuffar et muslimin. Donc ça, c'est parmi les questions de divergence. Lakin, remarquez que le point fondamental ne comporte aucune divergence. Taïb. Donc c'est Nabi Aslam qui va intercéder auprès d'Allah pour que les gens entrent au paradis. Et c'est le premier qui va entrer au paradis. Après, il y a d'autres intercessions qui ne sont pas spécifiques au prophète, mais que, comme on a vu, pour les croyants, les anges. Parmi ces intercessions que l'auteur a citées, c'est l'intercession en faveur de gens qui vont sortir de l'enfer après un châtiment de l'enfer. Il y a ce qu'on appelle le Juhannamiyoun, des gens qui vont être châtiés en enfer, après ils vont sortir pour aller au paradis. Également des gens pour augmenter leur degré dans le paradis. La deuxième. La troisième, l'intercession en faveur de gens dont les hasanat seront égales ou sayyiat. La plupart des savants disent c'est ashabul a'raf. On a ashabul a'raf et ahl al-jannah. La plupart des savants disent ça, c'est Ashab al-A'raf. Des gens dont le hasanat seront égales aux sayyiat. Ça également, c'est parmi les intercessions qui sont pas spécifiques au prophète. Également, une dernière intercession en faveur de certains mouahidin pour qu'ils rentrent au paradis sans jugement ni châtiment. Comme Ukasha radiallahu anhu. Quand Nabi Aslam leur a parlé de ces gens, il a dit au messager d'Allah, demande à Allah que je sois parmi eux. Il lui a dit, t'es parmi eux. Donc ça, c'est une intercession. Et elle n'est pas spécifique au prophète, alayhi salatu wassalam, également. Taïb. Voilà l'ensemble des intercessions que la plupart des savants citent. C'est laquelle de ces intercessions que le Khawarij et le Mu'tazila et également Rafida. Rafida renie. Il renie l'intercession de ceux qui vont sortir de l'enfer pour aller au paradis. Ceux qui ont mérité. Ceux qui sont entrés en enfer, ils vont sortir de l'enfer pour aller au paradis. Il renie cette intercession. C'est ce que le cheikh a dit. Il a dit وَيُنْكِرُ هَذِي الشَّفَاعَةِ يعني الشَّفَاعَةِ l'intercession pour faire sortir des gens de l'enfer pour qu'ils aillent au paradis. Là, pour eux, s'ils ont mérité l'enfer, c'est qu'ils n'iront jamais au paradis. Alors que ça, c'est عَقِدَةَ الْخَوَارِجِ qui rend mécréants les muslimines avec les grands péchés. Ils disent, étant donné qu'ils ont fait des grands péchés desquels ils ne se sont pas repentis, donc ils seront voués pour l'éternité en enfer. Il n'y a pas quelqu'un qui va en enfer et après il va au paradis. Ça n'existe pas chez eux. Pourquoi ? Ça, je pense que je l'avais bien expliqué quand on a parlé de la foi. Car pour eux, la foi, c'est une seule entité. Elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et ça, c'est la croyance de l'Khawarij et de l'Murji'a. Mais l'Khawarij, ils disent la foi, c'est une seule entité. Quand tu perds une partie de la foi, ils disent, tu perds la totalité de la foi. Et nous, on est d'accord que quand tu perds une partie de la foi, en faisant un grand péché, quelqu'un qui fait zina, il n'a pas la même foi qu'avant de faire zina, wal'iyadu billah, qu'Allah nous en préserve. Sa foi, elle diminue. Lakin pour eux, la foi, elle ne diminue pas. Elle s'annule avec ce grand péché. Car la foi, c'est une seule entité. Et le Murji'a, ils disent l'inverse. En partant de la même base, en partant du principe que la foi, c'est une seule entité, le Murji'a, ils disent, quand tu as un minimum de la foi, tu as forcément la totalité de la foi. Il y a quelqu'un qui a un élément de la foi. Par exemple, il a tawhid. Donc cette personne, c'est pas possible qu'elle perde sa foi et qu'il devient mécréant, car la foi, elle n'augmente pas, elle ne diminue pas. Et quand tu as un minimum de la foi, tu as forcément la totalité de la foi. C'est pour ça qu'ils disent, ma foi à moi, c'est comme la foi du prophète, c'est comme la foi de Jibril. Vous voyez qu'en partant du même égarement, ils arrivent à deux dérives opposées. Al-Sunnah wal-Jama'a, ils disent non, la foi augmente avec l'adoration et l'obéissance et diminue avec les péchés. Et elle s'invalide avec les annulatifs de la foi. Et non pas avec les grands péchés. Lakin, un croyant qui commet un péché, on dit de lui que c'est un croyant avec sa foi et son tawhid, et qu'il est déviant et pervers, et il a une forme de déviance et de perversité à cause de son grand péché. Mu'minun bi'imanihi fasiqun bi'kabiratihi, comme dit Cheikh Islam Taimi. Et donc, ils ont laissé de côté tous les textes rapportés à ce sujet, ils ne les ont pas pris en considération. Pourtant, ce sont des textes mutawatir. Il faut savoir que les hadiths au sujet de Shafa'a ont atteint le degré de tawatur. Tawatur, comme vous savez, c'est les hadiths qui ont été rapportés d'un très grand nombre à chaque génération de la chaîne de transmission. D'un très grand nombre rapporté d'un autre très très grand nombre jusqu'à arriver au prophète. Et dans ce genre de texte, il n'y a même pas besoin d'étudier la chaîne de transmission. Du moment qu'on prouve que c'est un hadith mutawatir, il est automatiquement authentique. Lakin, la question c'est de prouver qu'il est mutawatir. Et les hadiths de Shafa'a, ce sont des hadiths mutawatira. Cheikh a cité plusieurs versets du Coran qui indiquent cette shafa'a. Mais avant, il a cité les ambiguïtés de ces égarés. Les ambiguïtés de, par exemple, de l'Khawarij et de Rafida, et ainsi de suite. Tous ceux qui les ont suivis dans leur égarement. Et comme je vous ai dit, Rafida, dans leur croyance, ce sont des Mu'tazila. Rafida, ils ont regroupé la plupart des égarements. Et dans la croyance, vous allez trouver que ce sont des Mu'tazila. Et dans le Khuruj, ils suivent le Khawarij. Et ainsi de suite. Taïb. Parmi les textes sur lesquels ils se sont appuyés, la parole d'Allah, « Min qabli ayyati yawmun la bay'un fihi wa la khullatun wa la shafa'a » Allah nous dit dans le sens approximatif, avant qu'il ne vienne un jour dans lequel il n'y aura ni vente, ni transaction, ni amitié, ni intercession bénéfique. C'est-à-dire bénéfique. Et ce qui est voulu par ces versets, c'est l'intercession reniée. Ou la niée, afon niée. L'intercession niée. C'est-à-dire al-shafa'a al-manfiya. Ce jour-là, le jour de la résurrection, aucune intercession que croyait le mushrikin ne sera bénéfique. Et dans l'autre verset, Allah dit « فَمَا تَنْفَعُهُمْ شَفَاعَةُ الشَّافِعِينَ » L'intercession des intercesseurs ne leur sera d'aucun profit. Et ça, c'est pour le mushrikin également. Ce verset concerne l'intercession que croyait le mushrikin, que leurs idoles, que leurs statues, que leur divinité en dehors d'Allah vont leur être profitables auprès d'Allah. Car comme vous savez, est-ce que Kuffar Quraysh adorait les idoles et ses divinités en croyant, ça c'est une question que je vous pose, en croyant que ce sont des divinités qui créent et qui donne la subsistance, et ainsi de suite.
Non.
Et qu'est-ce qu'il croyait en ces divinités? Pourquoi il les adorait alors? Tfadalak.
Pour intercéder.
Pour intercéder, ya salam, mashallah. Comme Allah dit dans le Coran, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا dans Sourate Zumar, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Donc c'est ce qu'ils croyaient dans leur grande majorité. Annahad, les divinités, c'est seulement pour les rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala davantage. Et pour intercéder en leur faveur auprès d'Allah. Car ils estimaient que ces idoles avaient un rang élevé auprès d'Allah. C'est comme les soufis aujourd'hui avec notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Un soufi qui voue des adorations au prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui l'invoque et qui l'implore et qui lui demande ce qui ne se demande qu'à Allah subhanahu wa ta'ala, quand tu lui dis il ne faut pas faire ça, ça c'est du'a, ça c'est l'adoration qui se doit uniquement à Allah. Il dit moi je ne l'adore pas. C'est uniquement parce qu'il a un rang élevé auprès d'Allah, et sur ça on est d'accord, que je lui demande d'intercéder pour moi auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le même shirk qu'avaient Abu Jahl et Abu Lahab. Abu Jahl ne croyait pas que Hubal créait avec Allah. Abu Jahl, le grand ennemi du prophète alayhi salam, et le pharaon de cette communauté, il ne croyait pas que Hubal, ou là les autres idoles, Lat, ou Manat, ou Al-Uzza, personne parmi eux ne croyait, personne, lakin d'une manière générale. Ça n'empêche pas qu'il puisse y avoir quelques individus qui avaient du shirk dans Ar-Rububiyya. Lakin d'une manière générale, ce que nous comprenons de le Coran, c'est que tous, ils savaient que c'est Allah le seul créateur, le seul pourvoyeur. Et ça, c'est dans énormément de versets dans le Coran. Lakin, il les prenait comme des intermédiaires. Et les prendre comme des intermédiaires, Allah l'a appelé dans le Coran explicitement à shirk et le kufr. Donc, le khawarij, ils vont s'appuyer sur des versets qui nient l'intercession que croyait le kuffar, pour nier l'intercession qui est rapportée dans l'ahadith authentique et même mutawatir. Et le Mu'tazila, ils ont une règle, c'est que l'argument rationnel est plus fort que l'argument religieux. La raison, elle est plus forte que le texte. Et ça, c'est tiré de la philosophie grecque. Had le principe qui les a égarés. Et l'Asha'ira, ils ont le même principe. Vous lisez ce principe chez eux dans leurs livres. Là, quand tu entends un Asha'ari contemporain, il va te dire non, c'est pas vrai. Al-Sunna monte. Ils disent qu'on se base sur la raison avant la révélation, c'est faux. Là, quand tu lui dis s'il y a un texte authentique qui s'oppose avec ta raison, tu vas prendre quoi? Il va te dire je vais prendre la raison. Et alors, pourquoi tu dis que tu ne veux pas reconnaître que la raison passe avant toi, pour toi, avant la révélation? Il va te dire, l'Ash'ari, c'est pour ça, qu'est-ce qu'ils appelaient l'Ash'ari? L'Ash'ari, ils sont venus entre les deux, entre Al-Sunna et Al-Mu'tazila. Al-Mu'tazili, il est clair, il est explicite, il dit la raison passe avant la révélation. Lakin, Al-Sunna, la révélation passe avant la raison. La raison, c'est une création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et son rôle, ce n'est pas de juger la révélation. Son rôle, c'est de comprendre la révélation. Et en réalité, il n'y a pas d'opposition. Car eux, ils s'imaginent qu'il y a un conflit entre la raison et la révélation. Et ça, c'est uniquement dans leur imaginaire. Et ce que Shaitan leur fait croire. En réalité, quelqu'un qui a une raison saine, elle ne va jamais être en contradiction avec une révélation authentique. Et Cheikh l'Islam, il a fait son livre exceptionnel qui n'a pas de semblable dans les ouvrages des musulmans, qui s'appelle Dar al-Ta'arud al-Aql wa al-Naql. dans lequel il a réfuté Razi, un des plus grands de l'Asha'ira, par rapport à ce point en particulier, qu'il ne peut pas y avoir de contradiction quand le texte est authentique et le raisonnement est sain. Lakin, quelqu'un dont le raisonnement a été corrompu par ses lectures dans la philosophie grecque et dans la pensée grecque, ou là dans la société dans laquelle il a grandi, celui-là, il peut trouver des contradictions, effectivement. Comme le fait de trouver bizarre qu'une femme couvre son intimité et de trouver que c'est un grand bien que la femme marche toute nue dans la rue. Avec quelqu'un comme ça, on ne parle pas, on n'a pas de discussion. On cherche les moyens pour le ramener à sa nature humaine saine. On lui fait rencontrer des koufars de son pays il y a une cinquantaine d'années ou là une soixantaine d'années, comment étaient les gens. Voilà, Ikhwa, ce qu'on peut dire par rapport à cette Shafa'a et avec ces catégories, et Shafa'a qui est unique, qui profitera à un kafir, lakin pas pour qu'il sorte de l'enfer, juste pour alléger son châtiment dans le feu de l'enfer, c'est Shafa'a de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en faveur de son oncle Abu Talib, qui l'a protégé, et qui a protégé sa da'wa jusqu'à sa mort. Qui a protégé le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et l'a protégé de da'wa jusqu'à sa mort. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était sous la protection de son oncle jusqu'à ce que son oncle ait décédé. C'est là où il a commencé à subir des choses de la part de l'Kuffar qu'il ne subissait pas avant. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Je voulais qu'on parle de le Messie Dajjal, là, peut-être c'est meilleur de laisser ce point à une autre séance dans laquelle on parlera, Inch'Allah, de le Messie Dajjal et de la descente de Isa alayhi salam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma wa bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta. Nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.